Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Maïder Gérard, Corentin Mansois, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par YouTube Diego Aclopez. Deuxième temps de notre série consacrée à l'espace. Hier, nous parlions du retour de la Lune dans les politiques spatiales. Aujourd'hui, observons de plus près les acteurs économiques privés du secteur. New Space, le business à l'assaut de la conquête spatiale, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
Cette civilisation dont je parle, la possibilité de vivre et de travailler confortablement dans l'espace et d'envoyer des millions de personnes, puis finalement des milliards de personnes dans l'espace, on ne peut pas faire cela avec des véhicules spatiaux que l'on utilise une seule fois et qui ne sont pas réutilisables. C'est une façon ridicule et trop coûteuse d'aller dans l'espace.
Avec notre projet de constellation de satellites, nous sommes allés voir Airbus, Thales et d'autres groupes. Nous leur avons demandé « Est-ce que vous aimeriez développer un partenariat avec nous ?» Ils ont étudié, réfléchi et au final, ils veulent tous investir dans notre projet.
Quelle est votre raison d'être ? Qu'est-ce qui vous inspire ? Qu'attendez-vous du futur ? Si nous ne sortons pas de chez nous, si le futur n'inclut pas une vie là-bas aux côtés des étoiles, de pouvoir être une espèce multiplanétaire, je trouve ça particulièrement déprimant de ne pas pouvoir vivre un tel avenir.
Elon Musk, le patron de Tesla, mais aussi de SpaceX, spécialisé dans le vol spatial. Jeff Bezos, patron d'Amazon, mais aussi de la compagnie Blue Origin. Gregory Wyler, un autre milliardaire qui a fait fortune dans l'informatique, qui a lancé, lui, OneWeb, un projet de constellation de centaines de satellites de télécommunications pour permettre aux zones reculées d'avoir accès à l'Internet au débit. Trois milliardaires, issus du secteur de l'informatique et du numérique, qui ont largement investi le domaine spatial. Aux États-Unis, depuis la libéralisation du secteur dans les années 90, l'espace est devenu un objet hautement commercial. En effet, le New Space est en plein boom et en quelques années, de nouveaux acteurs industriels privés se sont imposés dans un domaine longtemps resté l'apanage des États. À l'instar de SpaceX, créé en 2002, devenu le premier lanceur au monde en nombre de lancements grâce à sa fusée Falcon. Dans cette nouvelle compétition, les entreprises américaines semblent faire la course en tête. Alors comment ont-elles pris le leadership du marché spatial international ? Et l'Europe ou la Chine peuvent-ils se faire une place ? À quoi ressemblera le modèle industriel spatial du futur ? Jusqu'où aussi la puissance publique peut-elle confier sa politique spatiale au privé ? Quelle place restera-t-il à la science, la recherche ? Ou même à l'aventure humaine, lorsque les États n'auront plus les moyens de leurs ambitions et qu'ils seront devenus totalement dépendants des entreprises et soumis aux lois du marché. Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, Xavier Pascaud, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Directeur de la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique, et puis auteur d'un ouvrage qui est en plein dans notre sujet, Le Nouvel Âge Spatial de la Guerre Froide au New Space, qui était paru aux éditions du CNRS en 2017. À vos côtés, Paco Mrévillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur d'Euroconsult, qui est une société indépendante d'analyse et de conseil spécialisé précisément dans le secteur de l'espace. Paco Mrévillon, on va commencer avec vous. Elon Musk, Jeff Bezos, Gregory Wyler, trois des plus grandes fortunes des États-Unis, trois des plus gros entrepreneurs probablement que compte le territoire américain. Comment est-ce que vous interprétez que ces entrepreneurs aient investi depuis assez longtemps le secteur spatial ? Ils ont compris très vite qu'ils allaient construire leur fortune de demain dans l'espace ?
Alors, je pense que aux États-Unis, il y a une question culturelle aussi, qui est que pour ces milliardaires, nombre d'entre eux ont pu être bercés dans l'aventure, la conquête spatiale américaine. Et il ne faut pas négliger la force que ce rêve, cette dynamique, a encore pour un certain nombre de ces milliardaires, comme le prochain rêve qu'ils pourraient réaliser à l'aide de leurs milliards.
Ils parlent tous de rêve. Xavier Pascaud, vous dites que le New Space, puis on va voir ensuite, on va le définir, mais vous dites qu'il est né avec l'industrie de l'information. En fait, c'est la révolution du numérique qui a fait basculer le domaine spatial dans l'ère industrielle et dans les logiques de concurrence et dans l'ère de la mondialisation, finalement.
En fait, oui, c'est ça, d'une certaine manière. On a trouvé un nouveau moyen de justifier l'espace après la guerre froide, et ce nouveau moyen, c'était de connecter l'espace au monde de l'information, qui était le monde en pleine expansion, avec des visée politique à l'époque, hein, dans les années 90, qui contrôlait le monde de l'information, qui contrôlait ce qu'on appelle la chaîne de l'information, à un projet de politique, on peut le dire, de domination quand même, un peu stratégique. Et donc, très vite, le lien a été fait, notamment, mais dès la fin de l'administration Bush, et je parle de la précédente, hein, celle du père Bush, et puis c'est l'administration Clinton qui va mettre vraiment ça en musique, en permettant les premières exploitations commerciales des systèmes spatiaux.
On va revenir justement sur ce moment très important de la libéralisation, mais d'abord peut-être un petit temps sur le terme lui-même, New Space. On échangeait tout à l'heure avant de commencer cette émission et vous me disiez qu'il y a derrière ce terme beaucoup de débats aux États-Unis, mais pas seulement. Est-ce que vous pouvez nous dire d'abord de quoi on parle quand on parle de New Space et puis quels sont les débats qu'il y a derrière? Qui veut y aller? Pas comme Réveillon? Allez.
Quand on parle de New Space, on parle vraiment d'innovation de rupture. Et effectivement, ce terme de numérique est approprié. Ça s'inscrit vraiment dans la volonté d'aller vers de l'espace ou l'industrie 4.0. Donc d'un côté, permettre des nouveaux usages et d'un autre côté, utiliser tous les leviers de cette nouvelle société de l'information pour accélérer la conception, le développement des différents assets industriels. Et ce qui se combine avec la capacité de faire potentiellement plus vite, mieux avec des activités privées que ce que pourrait faire dans certains cas la sphère publique avec une plus grande externalisation, mais qui doit être acceptée par les États de cette activité spatiale.
Xavier Pascaux.
Oui, c'est exactement ça. C'est en fait un mouvement de modernisation. En tout cas, c'est vu comme ça. Le message est celui-là. On modernise le secteur spatial dans tous ses domaines. C'est-à-dire aussi bien dans le domaine technique que dans le domaine de ses usages et que dans le domaine de sa gestion. Et donc, tout ça arrive ensemble au moment où, finalement, on réfléchit à faire de l'espace quelque chose de nouveau. Il faut se rappeler, pour avoir cette perspective sur ce qu'on appelle le New Space et pourquoi cet aspect de nouveauté, que l'espace était né comme un produit de la guerre froide. C'était quelque chose extrêmement régalien, on dirait aujourd'hui, et qui avait été essentiellement développé dans le cadre d'une confrontation bipolaire. Même l'espace est très lié au nucléaire, par exemple. Et dans les années 90, eh bien, le paysage géostratégique change et il faut surtout ne pas perdre l'investissement passé et il faut le transformer en quelque chose qui sera efficace demain. Et c'est pour ça qu'on a cette idée de nouveauté qui est transmise.
Alors justement, donc, la guerre froide se termine, l'URSS s'effondre et puis quelques années après, c'est en 1994, sous le mandat de Bill Clinton, vous le disiez, on va, du côté des États-Unis, libéraliser ce secteur spatial. Racontez-nous comment on fait, Xavier Pascaux, c'est un des points sur lequel vous vous attardez dans votre ouvrage.
Oui, absolument. Et les années 90, et je le disais même, la fin de l'administration Bush précédente, finalement fait le constat que les milliards qui ont été investis, et notamment dans le domaine de l'observation de la Terre, mais pas seulement, dans le domaine spatial, ce sont des milliards qui ne doivent pas être perdus comme moyen de la puissance américaine qui se redéfinit au même moment. C'est-à-dire qu'on c'est le moment où on parle d'hyperpuissance, de on ne sait pas s'il va y avoir une unipolarité, etc. Et donc on se dit, bien, finalement, il faut que nous gardions une sorte d'avantage, nous, Américains, nous, système américain. Et cet avantage, eh bien, l'espace l'exprime relativement bien. Ça vous donne un bonus parce que vous êtes technologiquement avancé, financièrement puissant et politiquement normatif. Mmh. Et donc si vous voulez jouer ce jeu, vous devez écrire les règles. Et ça commence dès les années 90. Première loi qui est votée au Congrès, c'est la loi de 92 sur la télédétection. Donc on autorise finalement les entreprises à imaginer des exploitations commerciales. Et la mise en musique, ce sera une directive présidentielle de 94, celle de Bill Clinton, qui va autoriser cette fois-ci de manière concrète les entreprises à commencer à commercialiser leurs images. De manière totalement surprenante, notamment pour les Européens d'ailleurs. Il faut voir qu'à l'époque, il y avait un accord entre gouvernements pour ne pas diffuser d'images d'une précision trop importante qui pourrait nuire à la sécurité. Mmh. Et de manière totalement unilatérale, les États-Unis décident de changer les règles du jeu et à partir de là, tout le monde a dû se réaligner.
Comment est-ce que justement on réagit, Paco Révillon, à cette libéralisation relativement soudaine, en tout cas soudaine vue d'Europe et vue de l'extérieur des États-Unis, parce qu'on comprend que Xavier Pascaux nous le disait, tout ça avait été largement préparé en réalité du côté des États-Unis, mais comment est-ce qu'on prend la chose justement, nous par exemple, vue d'Europe?
Les acteurs européens ont essayé de réagir et je pense qu'il y a eu deux faits marquants des deux côtés de l'Atlantique qui ont aussi amené à ces phénomènes. Il y en a un qui a été les conflits, certains dont les conflits en Irak et en Afghanistan qui ont entraîné une accélération d'investissement côté États-Unis et des nouveaux besoins. Et d'un autre côté, les échecs de la navette et la dépendance à la Russie qui est devenue plus ou moins visible et inacceptable pour les États-Unis stratégiquement. Alors du côté de l'Europe, si un des faits majeurs qui a pu avoir lieu entre les années 2000 et 2010, ça a été aussi la montée en puissance de une prise de conscience par la Commission européenne et au niveau européen de l'importance d'investir dans le spatial au-dessus des États ou en complément des États, avec notamment un programme de navigation Galileo indépendant pour l'Europe. Donc il y a eu plusieurs dimensions. Il y a une dimension politique et aussi le fait qu'historiquement, l'Europe a été plus impliquée dans les activités commerciales et l'export et a essayé de maintenir au mieux son avantage.
Vous parlez d'indépendance, pas comme Révision. Si on regarde du côté des États-Unis, est-ce que vraiment ces acteurs privés, j'en ai évoqué quelques-uns, SpaceX, Blue Origin, etc., est-ce que ce sont réellement des acteurs indépendants et totalement autonomes, ou finalement ces entreprises privées, elles dépendent aussi, j'allais dire, de l'État fédéral, des politiques publiques dans le domaine spatial, enfin...
Non, alors il faut être clair, aujourd'hui au niveau mondial, plus de 90% des revenus d'acteurs industriels travaillant dans le spatial proviennent de la sphère publique et des gouvernements. Et ça reste très vrai aux États-Unis, et même si on regarde des nombres de lancements, des nombres de satellites, en valeur, c'est quand même la puissance publique américaine qui est dominante dans les revenus de ces acteurs commerciaux, industriels, et donc leur capacité à convaincre du fait qu'ils peuvent apporter de meilleures solutions, de nouveaux services, est absolument clé dans leur développement économique.
Oui, c'est bien parce que la puissance publique américaine a donné des marchés à ces acteurs privés qu'en fait, ils sont là aujourd'hui.
C'est vrai dans tous les domaines. Ça a été vrai pour l'observation de la Terre dans les années 90 puis 2000. Ça a été vrai dans le secteur des lanceurs. C'est clair que SpaceX n'aurait pas survécu sans le soutien de l'agence spatiale civile, notamment la NASA. Et on voit bien que les gouvernements sont traditionnellement les usagers les plus importants. C'est ceux qui ont le plus de besoins en termes de services spatiaux. Et donc aujourd'hui, effectivement, la stratégie de ces acteurs émergents, eh bien, c'est d'abord de capitaliser sur ces besoins et éventuellement de faire un bonus, je dirais, d'opportunisme, un opportuniste sur des nouveaux services qu'ils essayent d'inventer.
SpaceX, justement, apparu il y a moins de 20 ans, c'était en 2002, et il est devenu quand même en quelques années le premier lanceur au monde. Alors, on en discutait juste avant de commencer cette émission, en nombre de lancements quand on regarde opérateur par opérateur. Comment est-ce qu'il est parvenu à une telle prouesse et pourquoi SpaceX et pas un autre ? Xavier Pascaux.
Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que SpaceX a bénéficié, je dirais, d'une sorte de concours de circonstances avec à la fois une demande qui était latente dans un contexte, comme l'a rappelé Paco Révillon, où la navette spatiale, où les pouvoirs publics aux États-Unis étaient en manque de lanceurs, d'une certaine manière, avec d'un côté une navette spatiale qui s'arrêtait, et de l'autre côté des lanceurs dédiés au tir militaire, au lancement de charges militaires extrêmement chères, et qui avaient fait déjà l'objet de nombreuses critiques de la part de l'acteur public. Donc, un acteur qui arrive dans cette situation avec une promesse qui était la promesse d'Elon Musk de baisser les coûts de manière drastique. Alors après, on pourra reparler de la réalité de cette diminution des coûts. Mais c'était un discours qui trouvait sa place exactement au bon moment. Et donc, on a eu effectivement, de la part de l'acteur public, en premier lieu la NASA et puis ensuite par le Pentagone, d'un intérêt. On a vu un intérêt très important pour cet opérateur.
Sur la réalité des baisses des coûts.
Oui, alors aujourd'hui la baisse des coûts. Donc Elon Musk a fait, je dirais, comme de cette baisse des coûts une philosophie de fond, avec l'idée, disait-il au tout début de l'exercice de son mandat de PDG de SpaceX, l'idée finalement de dégager du terrain tous les autres opérateurs, d'être celui qui serait le plus, et notamment Arianespace était nommément visé dans sa stratégie. Alors on a eu effectivement un certain nombre de nouveautés qui ont été, on va dire, mises en œuvre dans la construction des lanceurs d'abord, et puis ensuite dans l'opération des lanceurs, notamment avec ce qu'on appelle la réutilisation. Encore faut-il aujourd'hui, et je pense qu'on n'a pas encore complètement mesuré l'impact de cette réutilisation sur la baisse des coûts, parce qu'on ne sait pas exactement quels sont ses coûts. SpaceX reste un petit peu secret sur ses chiffres.
On reviendra sur cette question des coûts et évidemment sur la manière dont Ariane parvient ou pas justement à riposter. Mais toujours sur SpaceX, Paco Révillon, l'année dernière, il se trouve que l'entreprise a fait une levée de fonds et elle n'est parvenue à lever que la moitié des 500 millions de dollars qui étaient prévus. Alors, comment interpréter cet échec et est-ce que ça veut dire qu'au fond, SpaceX ne se porte pas si bien et que peut-être le modèle économique n'est pas encore là?
Alors, je pense qu'il y a différents enjeux. Donc d'abord, effectivement, si on regarde la réalité de ce qu'ils ont réalisé, c'est devenu une société leader mondiale dans les lanceurs et l'activité de lancement. Ça les a quand même amenés à une valorisation qui peut être toujours discutée, mais à probablement proche d'une trentaine de milliards, 25 milliards, etc. Ce qui, pour une société de moins de 15 ans, même du point de vue du rêve des milliardaires américains, peut être un investissement potentiellement rentable à terme. Mais cela dit, par rapport à la levée de fonds, une partie de ces levées de fonds sont vraiment pour un nouveau projet que serait le développement d'une méga constellation de satellites en orbite, qui elle-même a un coût, en fonction de ce qui est réalisé, qui pourrait être à plus d'une dizaine de milliards, et pour lesquels la société n'a pas forcément démontré son modèle économique. Donc là, on s'agit du développement de nouveaux champs d'activité qui ne sont pas forcément une évidence, et la société, comme toute société, peut aussi toucher certaines limites dans son modèle.
Je vais poser la question autrement. Vous avez dit tout à l'heure, l'un et l'autre, que si SpaceX était à la place où elle était aujourd'hui, c'était assez largement grâce à la puissance publique américaine. C'est devenu un acteur extrêmement important dans le secteur spatial américain. Mais quid des autres marchés? Est-ce que SpaceX aujourd'hui est un peu présent dans les autres marchés non-états-uniens, et est-ce qu'à terme, il peut espérer s'y imposer?
Alors, clairement, SpaceX est devenu même un acteur leader sur le marché du lancement commercial, notamment de satellites géostationnaires à travers le monde. Donc pour les autres besoins étatiques, ça peut être plus compliqué en fonction de considérations politiques, au cas par cas. Mais clairement, c'est devenu un leader sur le lancement de satellites de communication commerciaux. Alors, avec cela dit, un marché qui n'est pas extensible aujourd'hui, et avec un marché qui, historiquement, s'est toujours structuré autour d'un duopole, les acteurs préférant avoir au moins un choix entre deux sociétés de lancement principales. Ce qui amène à un total de marché, à des possibilités de développement qui sont déjà importantes aujourd'hui, mais qui peuvent toucher leurs limites aussi.
Xavier Pascaud, où est-ce que SpaceX peut espérer obtenir de nouveaux marchés?
Oui, alors effectivement, sur le marché commercial, le géostationnaire, ou voire éventuellement le lancement de constellations, on peut imaginer que sa constellation Starlink, si elle a, qui comporterait 4000, je crois, satellites d'une part et 7000 de l'autre, pourrait d'une certaine manière contribuer à ce marché. D'ailleurs, au passage, Amazon vient de Bezos, donc Blue Origin, son concurrent, vient d'annoncer la mise en place aussi d'une constellation de satellites, de 3200 satellites, je crois. Et évidemment, on peut imaginer que ces satellites seront lancés sur ces lanceurs Blue Origin. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'activité de lancement dans le monde, c'est à peu près annuellement 80 à 90 lancements. Sur ces 80 à 90 lancements, à peu près, 65 sont des lancements gouvernementaux. Le reste, le marché commercial, c'est 15 à 20 lancements par an. Donc quand on dit on est le premier acteur sur le marché commercial aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un peu plus de la moitié des lancements, ça veut dire en gros, on a 8 à 9 lancements, peut-être 10. Ça, c'est une vraie difficulté pour un lanceur qui ne serait que sur ce marché commercial, qui ne bénéficierait pas d'un adossement public. Pour le coup, SpaceX, mais les lanceurs, les opérateurs chinois, les opérateurs indiens ou d'autres, eux ont cet adossement public. Évidemment, les volumes sont différents selon les pays. Ça a toujours été un peu la difficulté en Europe parce que, bien évidemment, Arianespace s'est fait une spécialité de toucher ce marché commercial avec assez peu d'adossement public. On a peu de volume de satellites à tirer. Donc ça, c'est une vraie différence qu'il faut toujours mettre en évidence.
Pas comme révision, il faut peut-être aussi un tout petit peu éclairer les auditeurs. Là, on parle de lancement de satellites. Évidemment, il y a satellites. Et il y a satellites. C'est-à-dire qu'il y a les gros satellites géostationnaires, et puis il y a les tout petits satellites qu'on appelle maintenant des nanosatellites qui font la taille d'une boîte à chaussures, qu'on peut envoyer effectivement par centaines, voire par milliers, et faire comme ça des constellations autour de la Terre. Et c'est ça qui, en réalité, aujourd'hui, porte ce marché privé du spatial.
Exactement. Bah, en grande partie, de toute façon, alors le New Space correspond aussi à toutes ces nouvelles sociétés, nouveaux projets, nouveaux concepts qui ont été introduits. Et effectivement, si on regarde même les technologies à maîtriser, il est quand même plus facile d'espérer faire des micro-satellites, petits satellites, que de fabriquer des satellites géostationnaires de 5 à 6 tonnes qui sont technologiquement beaucoup plus complexes. Alors l'autre facteur est qu'on peut espérer faire beaucoup plus aujourd'hui avec des petits satellites en constellation qu'on ne pouvait le faire il y a 5 ou 10 ans. Et donc ces petits satellites peuvent vraiment devenir des objets opérationnels à l'avenir. Alors de façon intéressante, l'an dernier, et SpaceX a été le premier à le faire, on a eu un lancement dédié uniquement à ces petits satellites qui ont été agrégés par aussi des nouvelles sociétés, des brokers de l'espace qui essaient de réunir tous ces petits micro-satellites de façon à pouvoir remplir un lanceur et effectuer une opération de lancement.
Alors regardons justement ce business model un peu, Xavier Pascaud, ces fameuses constellations de centaines de satellites. Le projet OneWeb que j'évoquais tout à l'heure au début de l'émission, créé par Greg Weiler, c'est de déployer dans les années qui viennent une vaste constellation de satellites de télécommunications en orbite très basse, assez basse, 650 au total, mais ça pourrait monter je crois jusqu'à 900 à terme, et l'ouverture du service est prévue pour l'année prochaine, c'est très bientôt. Et à terme, eh ben, la promesse, c'est tout simplement de connecter à Internet les 3, 4 milliards d'individus par le truchement précisément de ces satellites de communication. Mais il y a certains observateurs qui considèrent qu'en fait, ce modèle économique n'est pas forcément rentable. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors, effectivement, c'est un peu le point d'interrogation aujourd'hui. Alors, je dirais pour deux raisons générales. La première raison, c'est qu'on a eu une expérience passée, quand même, dans les années 90, de projets de constellations de satellites de ce type qui ont tout échoué. Alors, elles ont échoué pour des raisons aussi d'évolution parallèle du secteur des communications terrestres, etc., des téléphones mobiles et toutes ces choses-là. Et puis surtout, elles ont échoué aussi parce que, bien, d'une certaine manière, Sans doute pour deux raisons principales. Les technologies n'étaient peut-être pas totalement mûres. Et puis, il n'y avait pas d'écosystème porteur, on dirait. L'Internet, dans les années 90, restait embryonnaire. C'est la grande différence avec aujourd'hui. Aujourd'hui, de nouveaux milliardaires font ce pari que désormais, ils ont des technologies plus mûres, notamment sur les antennes ou d'autres choses. Et puis, ils ont surtout des gens qui seront prêts à mettre beaucoup d'argent parce qu'ils y trouveront un intérêt. Donc, la question aujourd'hui pour ces grandes constellations, c'est de dire, eh bien, il y a tout un tas de gens dans le monde qui ne sont pas connectés à l'Internet, notamment. Et donc, je me promets, moi, avec ma constellation, de les connecter. Sauf que, les marchés ne sont pas également répartis sur la planète. Vous avez beaucoup d'océans, beaucoup de déserts, beaucoup d'endroits où il y a peu de gens. Donc, ça va être très compliqué quand même d'agréger toute cette demande. Mmh. Ça, c'est le premier point. Puis, deuxième point, ben, il y a quand même aujourd'hui des moyens alternatifs qui existent. Donc, aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'incertitudes.
Pas comme Révision, Xavier Pascaud nous dit il y a des gens qui sont prêts à mettre beaucoup d'argent sur la table. Et effectivement, on voit que les niveaux d'investissement dans le spatial, ils sont absolument colossaux. C'est plusieurs milliards de dollars chaque année. J'ai pas réussi à trouver un chiffre un peu compilé, un peu clair de tout ça, mais c'est beaucoup. Il y a une véritable euphorie financière autour du spatial. Est-ce qu'il y a un risque d'éclatement d'une bulle, comme il y a eu l'éclatement d'une bulle dans l'Internet ?
Bah, je pense qu'il y a un enjeu et on va arriver à une période charnière où beaucoup de concepts sont en développement et promettre leur lancement, déploiement commercial, vous parliez de OneWeb, l'année prochaine ou dans les 2-3 prochaines années. Et c'est là que ces promesses, ces développements technologiques vont devoir rencontrer un marché, voir si elles arrivent à se monétiser, à devenir rentables. Donc, en fonction du fait qu'au moins une poignée d'entre elles réussissent à être d'importants succès et ça pourra entraîner une continuité d'intérêt, en cas d'échec patent d'un certain nombre de concepts, il pourrait y avoir une période de froid, comme il arrive aussi dans d'autres secteurs industriels en période de rupture technologique, après potentiellement un deuxième rebond ultérieur. Mais là, effectivement, dans une période charnière, pour être très simple, une constellation de type OneWeb, mais il y en a plusieurs, c'est des centaines de satellites, c'est entre au moins 2 à 5 milliards d'investissements, c'est le besoin, grosso modo, de générer 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires en 2 ou 3 ans à travers le monde, en gérant des réglementations multiples, le besoin d'avoir des terminaux pour les utilisateurs très peu chers et d'aller convaincre des partenaires distributeurs à travers le monde. Donc soit il faut avoir des actionnaires patients, prêts à mettre beaucoup d'argent et à attendre que le marché se développe, soit effectivement l'horloge va tourner très 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 vite. Pour rentabiliser.
Alors, on va regarder comment l'Europe peut répondre justement à ce défi du New Space et comment est-ce qu'elle peut être un concurrent, un rival de ces nouveaux acteurs privés. C'est intéressant parce que vous allez voir, vous allez écouter tout de suite une archive, justement, on va parler d'Ariane tout de suite. Et déjà à l'époque, la question de la concurrence était déjà en place. On est en 1981, donc bien avant la libéralisation dont on parle.
Décollage confirmé.
Si nous pouvons continuer à améliorer cette fusée, eh bien, nous deviendrons vraiment tout à fait compétitifs sur le marché pour toutes sortes de satellites, mais surtout pour les satellites géostationnaires, puisque c'est pour les satellites géostationnaires que nous avons surtout conçu cette fusée Ariane.
Voilà, on entendait à l'instant la voix d'Hubert Curien, qui était à l'époque le PDG du CNES, et qui a déjà à l'époque cette préoccupation, il faut être compétitif sur le marché. Alors en l'occurrence, c'était le marché du géostationnaire. Alors aujourd'hui, ce qui est sur la rampe de lancement, c'est Ariane 6, c'est le lanceur de moyenne à forte puissance développé par l'Agence Spatiale Européenne pour remplacer sa fusée lourde Ariane 5, à compter de 2020. Bah, je vais vous poser la question directement. Est-ce que effectivement Ariane 6 sera de nature à concurrencer les lanceurs, par exemple celui proposé par SpaceX, Xavier Pascaud?
Ça, c'est une question à plusieurs millions, centaines de millions d'euros. Et effectivement, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est Ariane 6, donc qui devrait être tiré, je crois, en 2020 ou 2021, si les choses s'allongent un tout petit peu, avec l'idée que finalement, ok. Il n'y aura pas d'étage réutilisable pour cette fusée. Alors d'abord, elle doit couper les coûts pour Ariane 5 est un lanceur qui reste coûteux. Et donc l'idée de départ, c'était de faire en sorte de faire une nouvelle génération de lanceurs qui soit beaucoup moins cher à construire et à opérer d'ailleurs. Et donc des choix techniques ont été faits, ont été négociés entre les différents États membres de l'Union européenne, parce que je rappelle qu'Ariane est un lanceur européen. Donc ça effectivement, on n'est pas dans une logique guidée par un seul pays avec ses seuls intérêts. Il a fallu composer, donc il y a nécessairement des petits coûts. Mais l'idée, c'est de dire, on va faire déjà un lanceur de la prochaine génération qui va permettre quand même d'économiser sur un certain nombre de missions par le fait même qu'elle est construite différemment et opérée différemment.
Économiser combien et comment ?
Alors aujourd'hui, les chiffres ne sont pas encore établis. Par contre, comment ça veut dire d'abord la production même du lanceur et voit ses coûts diminuer, et l'opération, le pas de tir, etc. La complexité des opérations est aussi une grosse charge financière pour un opérateur. Et de simplifier ces opérations, ça permet de diminuer beaucoup les coûts. Bien évidemment, la difficulté pour Ariane, c'est que d'une certaine manière, le premier tir d'Ariane 6 sera un peu un non-événement en termes médiatiques et de communication.
Ils vont être contents de l'entendre.
Puisque, non, mais on le sait, puisqu'on a cette chorégraphie classique maintenant que tout le monde regarde sur Internet de la réutilisation, du retour des étages, etc. Sauf que la réutilisation, ça peut être un point d'économie sur certains types de missions, mais pas sur toutes. Donc aujourd'hui, Ariane Espace sait qu'elle ne progresse pas de manière spectaculaire vers cette voie, même si aujourd'hui il y a des recherches qui seront faites, mais il y a cette idée qu'on patiemment, on espère un peu passer la tempête, quoi.
Paco Morévillon, effectivement, quand on compare Ariane 6 et le Falcon 9 de SpaceX, la principale différence, c'est effectivement que la première est réutilisable et n'est pas réutilisable et que la seconde l'est précisément. Comment se fait-il qu'Ariane n'ait pas fait le choix de la réutilisation? On avait cru, nous, c'est ce qu'on nous a expliqué pendant des années, que c'était l'avenir, réutiliser justement les modules, les différents étages, etc. Bon, c'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, je pense qu'il y a d'abord une première question sur ce qu'est l'avenir, parce que là où il faut bien comprendre qu'on a changé d'univers, c'est que un lanceur précédemment était développé pour au moins 15 ou 20 ans. Et maintenant, on est entré dans une période du spatial d'innovation continue où le concept qu'on met en place devra lui-même évoluer. Et il est clair que Ariane 6 ne sera pas la fin de l'histoire pour toute la décennie prochaine et qu'il devra. Il y a des développements, comme Xavier le mentionnait, en cours pour un certain nombre de briques technologiques.
Ça veut dire que Ariane 7 va venir 4-5 ans plus tard, c'est ça que vous voulez dire?
Ou 6, A, B, oui, C, D, quelle que soit la version.
Le futur modèle arrivera avant une décennie.
En tout cas,
ça va s'accélérer.
Il est déjà nécessairement en réflexion et un certain nombre d'actions de recherche et développement sont en cours pour des fonctionnalités différentes, sans que forcément soient arrêtés les choix définitifs, mais clairement, on prépare déjà l'avenir en même temps qu'on développe le lanceur Ariane 6.
Et on va justement vers du réutilisable?
En tout cas, on l'analyse. Il y a différentes directions. Il y en a qui sont sur la nature même de la propulsion, du type de moteur, etc. Il y en a qui sont sur la réutilisabilité. Avec une notion qui est quand même fondamentale sur la réutilisabilité, c'est qu'elle a d'autant plus de sens qu'on a d'importantes cadences de lancement. Et là, il y a une notion relativement fondamentale qui est sur le besoin ou le volume de lancement de l'Europe et ou accessible par le marché commercial, ce qu'on mentionnait tout à l'heure.
Récemment, Xavier Pascaud, la Cour des comptes a publié un rapport dans lequel on critique assez vertement Ariane 6, ce dont on dit qu'elle est trop conventionnelle pour faire de l'ombre à SpaceX. Alors, il y a la question de la réutilisation qui n'est pas encore intégrée dans le modèle d'Ariane 6, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce qu'on reproche? Que reproche la Cour des comptes à Ariane 6?
Il semble que la Cour des comptes reproche effectivement une prudence technique avec sans doute une comparaison qui est faite avec SpaceX qui peut induire un peu en erreur. On est, il faut bien le dire, et comme Paco vient de le dire, on est dans des mondes différents aux États-Unis et en Europe. La vraie question à se poser sur Ariane 6, c'est qu'est-ce qu'on va lancer avec? Un lanceur, après tout, c'est fait pour lancer quelque chose. Qu'est-ce que l'Europe demain est prête à lancer? Et effectivement.
Alors, de ce point de vue, et je vous laisse poursuivre, il y a quelques jours, Ariane Espace, il se trouve que justement, a annoncé que le premier vol de la fusée Ariane 6 sera l'occasion de transporter 30 satellites de OneWeb, dont je parlais tout à l'heure, d'un seul coup, ce qui est quand même pas rien, parce que faut quand même évidemment rappeler ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que OneWeb, il est intimement lié à Airbus Défense et qu'il sollicitait jusqu'ici des Soyuz. Donc, c'est pas rien de voir que Ariane 6 va pouvoir lancer ses satellites. Je ferme la parenthèse.
Bien sûr, c'est l'enjeu majeur. Il faut absolument avoir, pour la France et pour l'Europe dans son ensemble, une idée claire de ce que nous voulons être dans l'espace d'ici en 2030. Et quand je dis ce que nous voulons être, nous, les États, je dirais, et puis l'Europe elle-même, l'Union européenne. Et pour l'instant, la plus grande difficulté d'Ariane, je dirais, elle n'est pas technique, elle est, quelle stratégie on va lui demander de suivre finalement. Et ça, c'est... Alors, on est tous d'accord à peu près pour avoir cette idée de l'autonomie d'accès à l'espace. Et je dirais, à minima, c'est le seuil protecteur d'une filière des lanceurs qui est extrêmement importante pour l'Europe, effectivement, en termes d'autonomie politique et stratégique. Mais quand on veut aller au-delà de ça, et donc toute réflexion sur la manière de diminuer les coûts, la manière d'être compétitif, ne peut faire l'économie de cette réflexion beaucoup plus politique sur ce que nous voulons être et ce que nous voulons faire. Que ce soit en termes de marché commercial, que ce soit en termes de marché public, que ce soit en termes même d'exploration. Et aujourd'hui, par le biais d'Ariane, on se reconnecte à une réflexion plus large qui est menée dans tous les autres pays sur les grands programmes à long terme qu'on peut critiquer éventuellement, dont on peut discuter philosophiquement, mais qui ont leur part à jouer dans la stratégie globale des lanceurs.
Oui, pas comme Révision, il y a là des questions politiques mais aussi économiques absolument centrales. Quand on pense à Ariane 5, c'était je crois une douzaine de pays qui participaient à sa construction. Ariane 6, je crois que ce sera encore plus. Je crois qu'il y a 13 pays qui vont être associés. On voit là que quand on réfléchit à, au fond, la rationalisation, comment est-ce qu'on peut diminuer les coûts, etc., etc., on comprend tout de suite que si vous avez une douzaine, voire 13 pays qui sont engagés dans cette production et qui ont tous envie de tirer un petit peu la couverture à eux pour profiter évidemment des bénéfices économiques de tout cela, ça va être très compliqué de rationaliser les coûts.
C'est sûr que ça peut l'être. Alors, d'abord, je pense qu'il y a deux dimensions importantes. Il y en a une qui est que, au niveau de la prise de risque et des ruptures, aux États-Unis, les États-Unis ont au moins deux, trois options d'accès à l'espace. Et donc, s'ils prennent des risques technologiques autour d'un nouveau programme de lanceur ou d'une, d'un outil, les États-Unis ne vont pas se retrouver dépourvus de solutions de lancement pour un satellite. Alors que l'Europe a un seul véhicule de lancement pour certaines orbites. Et à partir de là, doit gérer aussi la part de risque et de maturité pour avoir un lanceur disponible en 2020-21. Donc ça, je pense que c'est un aspect. Effectivement, dans le New Space aux États-Unis, si on parle d'un acteur comme SpaceX, l'une de leurs premières innovations a surtout été une innovation de process plus que de technologie. Rationaliser, ramener dans un état, simplifier l'ensemble de la chaîne des fournisseurs, etc., pour réussir à réduire les coûts par rapport à l'état existant et en utilisant en partie des technologies qui existaient déjà du point de vue fondamental de ces technologies. Donc, effectivement, dans le jeu européen, la multiplication des états, des sites et des fournisseurs rend une optimisation absolue des coûts plus complexe.
Mais nous aussi, on a le choix en Europe. On peut avoir Ariane 6 bientôt ou Vega. Vega, qui est le lanceur précisément de l'ESA, qui a été développé sous l'égide de l'Italie. Et voilà une critique précisément de la Cour des comptes. C'est comment est-ce qu'on a pu, à l'ESA, comment est-ce qu'on a pu en Europe mettre en place les conditions d'une concurrence intra-européenne. Qu'est-ce qui s'est passé, Xavier Pascaut? Pourquoi a-t-on deux lanceurs à l'ESA?
C'est la condition même de l'existence d'un programme spatial européen. C'est un peu paradoxal de dire ça. Mais l'ESA, l'Agence spatiale européenne, c'est d'abord une formidable machine à fundraising, à faire, à lever des fonds. Et si vous voulez lever des fonds conséquents à l'échelle continentale, ça suppose d'intéresser chacun, je veux dire, au retour sur investissement. Et donc, c'est ça le retour.
C'était la condition pour attirer l'Italie.
Le retour géographique, mais pas que l'Italie. L'ESA aujourd'hui, l'Agence spatiale européenne, a deux types de programmes, des programmes facultatifs et des programmes obligatoires. Les programmes obligatoires, donc, font partie, les gens mettent au pot et retrouvent en conséquence, en proportion de ce qu'ils ont mis au pot, les retours industriels. Les programmes facultatifs, ce sont un groupe d'États qui va, alors Ariane, c'est un programme facultatif, etc. Mais c'est toujours la difficulté du retour géographique. Les gens voient souvent, effectivement, les côtés négatifs de ce retour, qui sont nombreux et parfois tout à fait excessifs. Mmh. Et en même temps, on le sait, c'est la condition politique d'existence c'est la condition d'existence d'une politique spatiale européenne. Donc c'est un peu, on a cette particularité, ça fait partie de la construction européenne.
C'est une particularité, mais qui constitue une véritable faiblesse quand on a un marché mondialisé comme il est en train de se mondialiser dans le domaine spatial, pas comme Révillon.
C'est un handicap. En même temps, si on regarde ce que l'Europe a réussi à développer par rapport à la taille du budget spatial américain et ses 40 milliards et les capacités respectives, on peut dire que sur un grand nombre de programmes, l'Europe est quand même extrêmement efficace par rapport à la dépense publique américaine. Donc il faut aussi relativiser un peu les efforts. La différence, c'est qu'effectivement, avec 40 milliards de surface publique aux États-Unis, même si on est quelque peu inefficace, ça permet quand même de réaliser beaucoup plus de choses. Donc l'ESA, les acteurs, le fait d'avoir l'Union européenne plus impliquée, l'ESA de son côté, fait qu'il existe différents outils qui sont effectivement plus ou moins difficiles à harmoniser. Donc ça fait partie du jeu et de la construction européenne. Ça fait aussi partie des questions autour du New Space, de la capacité à différents pays de se spécialiser dans tel ou tel type d'activité, quel ce soit du lancement, de la construction de satellites, de nouveaux concepts d'usage ou de services en orbite, où un pays n'a pas la taille critique pour réaliser toutes ces activités.
J'entends parfaitement tout ce que vous nous dites, mais il se trouve que du coup, à l'arrivée, la conclusion est que, au fond, l'Europe n'est pas adaptée à l'émergence de ce fameux New Space. Regardez l'année dernière, le patron d'Airbus, qui avait envoyé une lettre à Emmanuel Macron et à Angela Merkel pour remettre en cause la politique de l'Agence spatiale européenne, mais aussi de toutes les agences spatiales nationales, qui étaient accusées d'avoir des gouvernances trop lourdes, d'être incapables de faire face précisément à ce nouvel environnement qui est en train de se mettre en place. Il y a quand même un problème, visiblement, Xavier Pascaut.
Alors, c'était pas pas qu'un problème d'ailleurs qui a trait au secteur spatial lui-même, c'est un problème général. Et là, je voudrais revenir sur l'histoire américaine du New Space. Si le New Space est né aux États-Unis, c'est pas par hasard. Il y a les aspects culturels que vous avez cités, et il y a aussi, je dirais, l'histoire elle-même. Quand vous regardez, par exemple, ce qui s'est passé dans les années 90 avec les sociétés qui se sont lancées dans l'observation de la Terre à des fins privées, ce sont des sociétés qui étaient soutenues par Lockheed ou par le laboratoire Lawrence Livermore, qui est un laboratoire fédéral qui travaillait sur l'IDS. Et à ce titre-là, au passage, il faut rappeler que dans les années 80, il y a eu une décision qui a été prise de bouclier stratégique par Ronald Reagan à l'époque, qui était un formidable moteur pour la R&D américaine sur des technologies absolument clés. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui au bout du compte, finalement? Et dans ces années 90, puis dans les années 2000, bien, en fait, c'est la moisson de tout ce qui a été semé à cette époque. Et là, je peux vous dire, c'est du budget fédéral massif. On n'a pas eu du tout en Europe l'équivalent de ça. Je dirais le pendant civil de l'IDS, l'Initiative de Défense Stratégique Aérienne, ça a été Eureka pour l'Europe. C'est-à-dire un programme de recherche fédéré, civil, très académique, et c'était très bien. Et l'Europe s'est construite d'ailleurs sur quelque chose de très très différent culturellement que l'affrontement bipolaire, etc. Donc on a quand même un élan qui est là et qu'on ne voit pas souvent. Le New Space est arrivé comme quelque chose de tout à fait exotique, je dirais, incarné par des gens tout à fait d'un nouveau style, etc. Pas du tout old school, pour le coup. Mais en réalité, c'est quelque chose qui a été semé bien avant. Donc, je voudrais quand même rappeler ça parce que c'est une histoire qui reste très particulière. Ce serait intéressant de comparer, d'ailleurs, avec l'histoire chinoise du New Space, le cas échéant, parce que est-ce qu'on peut avoir des correspondances ou non? Ça sera, c'est passionnant.
On va le faire, on va accueillir dans un instant Marie-Françoise Renard et on va parler de la Chine, mais toujours pour poursuivre un tout petit peu Paco Mérévillon sur cette question de l'Europe qui serait au fond pas en capacité de répondre à ce défi du New Space. Il y a effectivement la dimension politique que j'évoquais et peut-être effectivement des bisbilles entre les différents États et donc ça rend les choses compliquées. Mais il y a aussi ce que dit Xavier Pascaux, c'est-à-dire le fait que on n'a pas mis l'argent qu'il fallait, en tout cas rien d'équivalent avec ce qui a été mis sur la table du côté des États-Unis. Et c'est aussi ça. On peut parler de réforme de l'État, on peut parler des réformes éventuellement des agences nationales, mais au fond, c'est d'abord et avant tout un problème d'argent.
Il est clair qu'on est dans des facteurs 5 à 10 entre dépenses américaines ou européennes. Donc il y a, c'est un état de fait. À côté de ça, je dirais qu'il y a toute la partie financement, recherche, développement des activités, et il y a la partie demande. Et une des choses qui manque aujourd'hui en Europe, c'est la capacité d'agréger des besoins auprès d'un acteur qui achèterait, que ce soit des images, qui achèterait des services de communication ou autres, dans des volumes tels qui permettent à des sociétés de grandir de façon importante. Donc, aux États-Unis, la société Digital Globe a bénéficié de contrats d'achat d'imagerie garantis pour des centaines de millions par an qui lui ont permis de devenir un leader mondial. Aujourd'hui, l'Union européenne joue un peu ce rôle dans quelques programmes, mais dans des proportions beaucoup plus limitées.
Ça veut dire qu'on n'aura pas de grandes start-up européennes dans le domaine du spatial ?
Alors, il y a un certain nombre d'acteurs intéressants, donc il y a un certain nombre de start-up qui éclosent en Europe. La question est de savoir si elles arriveront à atteindre une taille critique. Je dirais que l'un des atouts qu'on a aussi en Europe, c'est que notre écosystème a quand même permis l'éclosion de leaders mondiaux dans les 20-30 dernières années, des groupes comme Airbus, Thales, même Ariane, ou des opérateurs de communication et autres, qui eux-mêmes, dans une certaine mesure, représentent autant de parrains, d'accompagnateurs pour des initiatives ou start-up. Ils investissent d'ailleurs dans des start-up aux États-Unis, mais aussi dans certains acteurs ou développement européen.
Qu'est-ce qu'il faudrait en Europe pour justement avoir de véritables grosses start-up dans le domaine du spatial, en capacité précisément de concurrencer les start-up américaines? Est-ce que par exemple, je vais vous mettre un petit peu sur la piste, est-ce que par exemple, il nous faudrait une législation type Buy Business Act américain qui oblige les entreprises précisément à s'adresser à des opérateurs nationaux, ce que nous on n'a pas évidemment en Europe.
Non, effectivement. Alors on a, oui, je dirais les aspects techniques. On a ce type de mesures qui peuvent être prises. On le sait aujourd'hui, Ariane souffre un petit peu. Ariane Espace souffre du fait que certains gouvernements européens vont faire tirer certains satellites sur des lanceurs étrangers, etc. Ça, c'est un vieux débat qui est là depuis longtemps et qui envenime un petit peu quand même le contexte. Mais je dirais, au-delà de ça, je crois qu'il est temps aujourd'hui de prendre un peu de distance avec tout ça. Les start-up européennes vivront quand elles seront intégrées dans une vision large du rôle qu'on veut faire jouer à l'espace. Et pour le coup, je dirais, souvent les start-up européennes, vous savez, les gens des start-up vous disent, en fait, j'ai besoin d'argent, mais j'ai surtout besoin qu'on me montre quel va être mon débouché. En Angleterre, par exemple, vous avez l'exemple d'un incubateur de start-up. Les Anglais sont faits depuis quelques années, les spécialistes, en tout cas les chantres de l'innovation disruptive, etc. Donc ils ont une espèce de campus où ils ont notamment installé des petites start-up. Et ce que vous disent les gens quand ils vous parlent de leur expérience dans ce campus, c'est qu'il y a en fait assez peu de volume d'argent. En revanche, on les aide beaucoup à trouver des débouchés, à se mettre en contact avec de la demande. La demande est clé.
Je parlais du Buy Business Act, c'est pas du tout Buy Business Act, c'est Buy American Act. Voilà, ça fait... allez, direction la Chine, parce que là aussi, il y a effectivement des acteurs privés qui commencent à émerger avec des entreprises qui sont arrivées sur le marché récemment. C'est le cas par exemple de OneSpace, qu'on appelle souvent le SpaceX chinois, qui a réalisé son premier tir de lanceur le mois dernier.
Pour les entreprises spatiales en Chine, la plupart d'entre elles sont de nouvelles startups. Si nous avons plus d'innovation et si on met plus de capitaux dans ce domaine, je pense que nous pouvons remporter plus de succès dans ce marché de niche comparé au marché américain qui est plus ancien et plus encadré. Je pense que nous manquons encore de règles et de régulations concernant les entreprises commerciales spatiales. Donc, à chaque étape, nous prenons des risques.
Voilà, cette voix qu'on entendait, c'est celle de Xu Chang, qui est le PDG de Space One, qui s'exprimait il y a quelques jours sur la télé chinoise. Bonjour Marie-Françoise Renard.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes économiste et professeur à l'université Clermont-Auvergne. Alors OneSpace, ça fait partie de la dizaine de grandes startups chinoises qui se sont lancées dans le spatial au cours des dernières années. Il y en a d'autres, hein, iSpace, LandSpace, etc., etc. Je vais vous poser la question directement, Marie-Françoise Renard. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ces entreprises chinoises concurrencent ces sociétés américaines privées dont on parle depuis tout à l'heure, comme SpaceX par exemple, et à quelle échéance? Allez, Marie-Françoise Renard.
Alors oui, elles ont comme objectif de les concurrencer. Ces programmes, ce soutien à ces entreprises et le développement de ces entreprises rentrent dans le cadre du plan Made in China 2025 et représentent aussi un des objectifs du président et des leaders chinois qui veulent que la Chine soit vraiment en pointe en 2049 quand on fêtera le centenaire de la création de la République populaire chinoise. Donc l'objectif, c'est vraiment d'améliorer le niveau technologique, c'est vraiment de développer les marchés. Mais il y a beaucoup de retard pour rattraper les États-Unis notamment.
Il y a beaucoup de retard, il y a une vingtaine d'années de retard, parce qu'on le disait, la libéralisation du secteur du côté des États-Unis, c'est 94, du côté de la Chine, c'est 2014. Vous pouvez nous expliquer pourquoi, oui, à ce moment-là, on prend la décision d'ouvrir le secteur? Le spatial était jusqu'ici la chasse gardée des agences nationales, parce qu'il y en a plusieurs en Chine, et de l'armée chinoise, et on ouvre à ce moment-là le spatial. Pour quelle raison? Quel est l'objectif de Pékin? Alors, et peut-être en particulier de Xi Jinping? C'est lui qui est à la manœuvre.
Oui. Voilà, c'est lui qui était à la manœuvre. En fait, il y a une articulation entre le spatial civil et le spatial militaire. Et évidemment, tout est quand même assez largement contrôlé par l'État. D'abord, l'objectif de la Chine, il a été, on pourrait dire, il y a deux aspects. Il y a l'aspect technologie et l'aspect entreprise. Le gouvernement a décidé de regrouper les grandes entreprises sur quelques pôles, dont le spatial, bien sûr, qui deviendrait, ces entreprises qui deviendraient compétitives au niveau mondial, mais a décidé aussi de laisser émerger, de soutenir l'émergence d'un secteur privé dans la plupart des domaines. Et puis d'autre part, il y a la nécessité de monter en gamme en matière de technologie, parce que la Chine a changé d'avantage comparatif, donc son économie s'est transformée structurellement, et elle veut monter en matière de technologie. Donc, il a été décidé de laisser émerger des start-up, comme on le sait dans les nouvelles technologies, c'est souvent les start-up qui sont les plus efficaces, mais elles ont bénéficié de transferts de technologie de la part des entreprises d'État, et puis elles ont aussi bénéficié, bien sûr, du soutien de l'État pour se développer.
Exactement comme aux États-Unis pour le coup. Mais est-ce qu'on a pensé le développement de ce nouveau secteur privé, je mets des guillemets, hein, évidemment, mais bon, quand même, en complémentarité avec les capacités des entités purement étatiques, ou est-ce que finalement on laisse un peu libre cours à tout ça, on voit comment ça se développe et puis on régulera ensuite?
Alors, au départ, ça a été fait un peu en complémentarité, mais c'est vrai quand même, l'idée pour beaucoup de ces entreprises, c'est de dire qu'il y a des possibilités de gagner de l'argent. Et donc, on va les laisser investir et se développer dans le domaine des satellites, etc., en voyant ce qui va marcher ou pas. Comme dans toutes les réformes en Chine, on le fait de façon assez progressive. On l'a vu récemment, par des échecs, et puis après, les choses vont s'améliorer. Et donc, l'État attend de voir aussi un peu quels sont les secteurs qui vont le mieux marcher commercialement. Et comme vous le savez, des grandes entreprises comme Baidu, etc., soutiennent ces start-up en espérant faire des bénéfices dans un terme pas trop éloigné.
Mais on sait exactement en Chine où est-ce que justement on peut faire de l'argent. On sait que c'est dans le lancement de petits satellites. On en a largement parlé avec Xavier Pascaux et Paco Mrévillon. Oui. C'est dans ce domaine-là. Est-ce que la Chine peut devenir demain le New Space chinois? Est-ce que le New Space chinois peut devenir là, dans les années qui viennent, le leader sur le marché des petits satellites?
Alors, il se développe, la plupart des start-up se développent dans ce domaine, mais le retard technologique est encore relativement important. Mais il va se rattraper rapidement, on peut supposer qu'il va se rattraper rapidement, même si le budget chinois dans ce domaine n'est pas encore très important. Vous parliez il y a un instant de budget, c'est très loin du budget américain. Mais beaucoup de start-up investissent dans ce domaine et leurs ambitions sont quand même assez grandes pour 2020-2025.
Vous restez avec nous, Marie-Françoise Renard. Je vais faire réagir nos deux invités ici, Xavier Pascaux et Paco Mrévillon, sur donc l'émergence de ces nouveaux acteurs privés. Alors quand on parle de la Chine, on met toujours quelques guillemets quand on utilise ce terme, mais Xavier Pascaux.
Oui, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre une dizaine, en gros, de petites start-up qui construisent et veulent opérer des satellites. Il y en a déjà sur le marché commercial pour l'observation de la Terre, d'ailleurs, très très efficace. Mais ce qu'on voit de manière sous-jacente aussi, c'est l'apparition, un peu comme aux États-Unis, de start-up dans le domaine de l'exploitation de l'information, du traitement de la donnée, etc. Et qui, très vite, et la Chine l'a fait très vite le lien entre espace, start-up, new space et société de l'information. Et ce qui est intéressant, c'est que la Chine dispose d'une sorte de marché intérieur là-dessus. Notamment, il y a une société qui s'appelle JARE qui s'intéresse beaucoup à l'agriculture, par exemple, et à l'exploitation des données spatiales pour l'agriculture. Et on le sait, c'est à l'échelle du continent chinois. Donc là, on a une situation un petit peu singulière d'un pays qui est en train de développer ses infrastructures, qui a ce besoin, je dirais, domestique d'infrastructures. Et là, on peut avoir peut-être une activité spatiale qui va partiellement se brancher sur ce besoin.
Pas comme Révillon.
Je pense d'abord que ça s'inscrit aussi dans une appétence pour la technologie. Effectivement, la Chine vit son Eldorado du spatial, a envoyé récemment un nouveau robot sur la Lune, sur la face cachée de la Lune, l'hiver dernier, etc. Et on est dans un contexte aussi de concurrence entre des gouvernements locaux en Chine qui souhaitent établir des hubs de compétences, de sociétés, etc. Il y a une industrie à construire, donc il y a quand même aussi un intérêt de beaucoup d'acteurs à voir cette industrie chez eux autant que possible. Et quand on regarde ce qu'elle réalise, par contre, et l'avenir de cette start-up, ça va quand même être conditionné par la capacité de la Chine à développer un marché intérieur. La Chine, c'est 98 satellites lancés l'an dernier. C'est le plus grand pays en monde en nombre de satellites, des petits, des gros. Bon, il y a différents types de satellites là-dedans. Mais pour ces start-up, par exemple, pour les lanceurs, ces lanceurs pourront se développer s'ils ont accès à ce marché intérieur, au moins partiellement, ce qui leur permettra d'avoir une assise pour ensuite éventuellement s'exporter. Ce sera dans le domaine de l'information, comme le disait Xavier, et dans d'autres types d'usages, de construction de satellites, de moyens de communication. Il faut que la Chine développe son marché intérieur et donne accès au niveau du gouvernement à une certaine partie de la demande pour ces start-up. Et si elles arrivent à grandir sur le marché chinois, comme les acteurs américains le font sur le marché américain, après, ça leur donnera une force de frappe à l'export.
Vous parlez du marché américain, justement. Vous me tendez une perche, Marie-Françoise Renard. Il se trouve qu'à la fin de l'année dernière, une enquête du Wall Street Journal révélait que l'entreprise Global IP, qui est une entreprise américaine, avait été financée à hauteur de 200 millions de dollars par des investisseurs assez proches, disons, du gouvernement chinois. Et par ailleurs, il se trouve qu'il y a d'autres investisseurs chinois qui ont également investi dans des entreprises américaines comme Moon Express ou Planetary Resources. Comment comprendre ces investissements? La Chine, Pékin, cherche à contrôler une partie du secteur spatial privé américain?
Oui, alors les investissements chinois se sont réorientés ces dernières années pour aller essentiellement dans des secteurs précis définis par le gouvernement dans le cadre de ce plan Made in China 2025 pour transférer de la technologie et pour être présent sur ce marché. Donc les investissements qui sont faits, on l'a vu aussi dans d'autres domaines, mais ils se sont resserrés par rapport à certaines périodes. On a arrêté d'investir dans tous les domaines, mais on investit dans des secteurs de pointe pour accélérer la technologie. Par rapport à ce qui vient d'être dit, je voudrais ajouter que effectivement, il y a un marché intérieur qu'on essaye de développer, par exemple sur des choses comme contrôler les feux de forêt, prévoir les feux de forêt, collecter des données en temps réel pour les industries, etc. Et l'avenir va effectivement dépendre du marché intérieur. Mais le gouvernement voudrait aussi utiliser ce que l'on appelle, d'une façon très très globale, le projet de la route de la soie, pour avoir comme marché un certain nombre de pays desservis par cette route de la soie qui permettrait d'élargir, compléter, on peut dire, la demande intérieure.
Xavier Pascaux, comment est-ce qu'on réagit aux États-Unis quand on voit des investisseurs chinois mettre des billes dans des grandes entreprises privées du spatial américaines?
Alors, à la fois très mal et parfois on est quand même assez mesuré dans les réactions. En fait, effectivement, on est aujourd'hui dans une logique, alors aux États-Unis, politique très particulière, qui est une logique de confrontation, je dirais tous azimuts avec la Chine, confrontation stratégique. Hein. Aujourd'hui, les États-Unis considèrent que le père stratégique, comme ils disent, c'est plus la Russie, c'est la Chine. Mmh. Et en particulier le spatial, même si la Russie garde beaucoup d'activités et beaucoup de savoir-faire, d'une manière ou d'une autre, on fait passer le message que le vrai adversaire, entre guillemets, on peut le dire comme ça, c'est la Chine. Et donc, on est extrêmement soucieux des investissements étrangers, chinois, enfin chinois à l'étranger, en particulier aux États-Unis.
Pas comme réveillon, on arrive presque au terme de cette émission. Et il y a un volet qu'on n'a pas du tout abordé aujourd'hui, c'est le tourisme spatial. Pourtant, il y a évidemment des acteurs qui se positionnent. Il y a Virgin Galactic, il y a eu il n'y a pas très longtemps un deuxième essai pour ces fameux avions spatial suborbital de Virgin Galactic qui s'appelle le VSS Unity. À chaque fois, ça fait des années qu'on en parle, des années qu'on dit « Allez, c'est pour dans 2, 3 ans, etc. » Et en fait, ça vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Faut pas compter là-dessus pour le moment encore?
Alors, on est encore très loin du tourisme de masse. En tout cas, probablement qu'on mettra un petit moment à acheter nos billets. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a un sujet qui est le suborbital dans lequel il y a des investissements pour différents types de besoins, pas seulement pour le tourisme spatial, qui sont en cours, et y compris en Europe. D'autre part, on est quand même dans des activités extrêmement sensibles et régulées. C'est comme le vol habité de façon générale. Quand on voit les problématiques ces derniers jours au niveau de la régulation et de la certification d'avions civils, quand on parle de vol suborbital, on est au moins dans des problématiques aussi complexes de qualification, certification, etc., avant que ça puisse vraiment devenir une activité commerciale.
Bon, donc non seulement, Xavier Pascaux, on n'est pas prêt d'aller faire notre petit vol dans l'espace, mais en plus, les entreprises qui se sont déjà déployées dans ce secteur-là sont pas prêtes non plus de faire des bénéfices.
Non. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est envisagé à court terme, malgré beaucoup de publicité.
Quelle échéance ?
Oh, il y a même pas aujourd'hui, je ne vois pas, je n'entends pas de discours finalement promettant un retour sur investissement.
On n'y aura pas droit, nous.
Alors, il faudrait vraiment que ça se démocratise. Aujourd'hui, je crois qu'un ticket pour aller faire quelques minutes d'apesanteur, c'est 250 000
Quelle mauvaise nouvelle.
Dollars ou quelque chose comme ça. Monopoly 21,
checkers and chess. Merci beaucoup à nos invités. Marie-Françoise Renard qui était avec nous à l'instant, auteur de L'économie de la Chine qui était paru à La Découverte. Xavier Pascaux, un grand merci également. Auteur, vous, de Le nouvel âge spatial de la guerre froide au New Space qui était paru aux éditions du CNRS. Pas comme Révillon, également un grand merci. On poursuit évidemment notre série consacrée à l'espace demain, 11h52, l'heure de retrouver Brice Couturier, le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Outside the barracks, by the corner light, I'll always stand and wait for you at night. We will create a world for two. I'll wait for you the whole night through.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on n'a pas tellement l'habitude de commencer vos chroniques avec de la musique, mais là c'est pas n'importe laquelle, la fameuse chanson Lili Marlin interprétée par Marlène Dietrich en personne. Et votre chronique de ce matin précisément est consacrée à cette comédienne, chanteuse, diva, une femme exceptionnelle. Mais cette chanson n'avait pas été écrite pour elle, Brice.
Et non, mais Marlène Dietrich se l'est appropriée au point que pour de nombreux soldats combattants durant la Seconde Guerre mondiale, elle a fini par s'identifier avec la Lili Marlène de la chanson. Elle l'a chantée pour les GIs en Algérie, puis sur le front italien. Elle l'a chantée pour les soldats alliés lors de la bataille des Ardennes, où Hitler avait massé ses chars pour une ultime contre-offensive. Et lorsqu'à partir des années 60, elle est passée du cinéma au tour de chant, eh bien elle a chanté Lili Marlène sur toutes les scènes du monde, créant chaque fois un moment d'intense recueillement. Alors, à l'origine de cette chanson, il y a un triste poème griffonné par un soldat allemand, Hans Leip, à la veille de son départ sur le front russe en avril 1915. Le pauvre garçon de la chanson, consigné pour indiscipline, accomplit sa corvée de sentinelle de nuit en faisant les 100 pas devant la porte de sa caserne au lieu d'aller retrouver la jeune fille dont il est amoureux. Le poème, découvert par la chanteuse réaliste allemande Lalle Andersen, est mise en musique à sa demande par Norbert Schulz. Elle enregistre la chanson en août 1939, à la veille de la déclaration de guerre, et c'est un bide complet. 700 exemplaires vendus. Il faut dire que cette version sonne au mieux comme un refrain de brasserie bavaroise ou au pire comme un air de manège, émotion niveau zéro. Mais voilà que 2 ans plus tard, Lili Marlène devient un tube planétaire, l'ancienne de la Seconde Guerre mondiale. Radio Belgrade, qui émet pour les soldats allemands engagés dans les Balkans et en Afrique du Nord, la diffuse tous les soirs en fin de programme. La chanson clôt une émission consacrée à la lecture de lettres envoyées par les soldats à leurs fiancées ou à leurs épouses. Goebbels, le maître de la propagande nazie, n'aime pas cette chanson. Il l'estime trop débonnaire. Elle risque d'émousser le fanatique désir de combattre qu'il veut inculquer aux soldats allemands sur tous les fronts. Oui, mais Rommel, le renard du désert, peut-être plus sentimental que Goebbels, lui aime la chanson et la réclame. À présent, c'est la radio de Berlin qui la diffuse plusieurs fois par jour. Entre-temps, les troupes britanniques qui combattent en Tripolitaine ont entendu Lili Marlène et elles l'ont adoptée. Les soldats alliés, eux aussi, rêvent aux douceurs du foyer devant la photo de celle qu'ils ont dû laisser pour s'en aller combattre si loin de chez eux. Et le succès de Lili Marlène explose. En 1942, elle est traduite et adaptée en 43 langues. Dans la France occupée, elle est créée par Suzy Solidor, qui dirige alors à Paris le cabaret La Vie Parisienne, très fréquenté par les officiers allemands. Et significativement, cette version française est interprétée sur un rythme de marche, avec le renfort de chœur qui sonne de manière assez militariste. Mais écoutez la version de Marlène Dietrich. Sa Lili Marlène est d'une immense mélancolie. Elle y fait entendre la lassitude et la désillusion du soldat bien davantage que le désir d'embrocher l'ennemi. Ce n'est qu'au 4e couplet, à l'évocation des marches dans la boue et le froid et du paquetage qui paraît plus qu'on ne peut supporter, que l'orchestre fait une incursion du côté de la marche militaire. Et lorsqu'elle l'a chantée en allemand, après-guerre, Marlène Dietrich évitait soigneusement tout bellicisme. Elle en ralentissait le rythme au point d'en faire une chanson poignante et désespérée.
Et alors Brice, pourquoi s'intéresser maintenant à Lili Marlène ?
Parce que vient de paraître une nouvelle biographie de Marlène Dietrich. À vrai dire, il en existe déjà un certain nombre, sans compter son autobiographie, comme celle de Donald Spoto, qui date de 2003, ou celle due à Jean Pavance, paru chez Gallimard en 2007. Mais cette dernière en date, qui s'appelle Marlène Dietrich, la scandaleuse de Berlin, qui vient de paraître donc chez Perrin, elle de la plume d'un universitaire spécialiste de l'histoire allemande, Jean-Paul Bled. Et elle permet sans doute de comprendre un peu mieux les rapports compliqués de cette femme extraordinaire, née à Berlin en 1901, avec l'Allemagne, la culture allemande, l'histoire allemande de son temps, qui était elle qui était devenue capitaine de l'US Army. Au départ, elle se destinait à devenir musicienne professionnelle, violoniste, et c'est une perfectionniste. Elle s'exerce sur les fameuses sonates de Bach durant des heures chaque jour, au point de s'abîmer la main gauche. Dans le Berlin des années 20, elle se marie précocement, entame une carrière de chanteuse, de danseuse de cabaret, elle tourne dans une série de films muets, sans intérêt. À cette époque, Berlin rivalise avec Hollywood. Elle s'amourache de son partenaire dans un de ses films, Willy Horst. On commence à parler d'elle comme la nouvelle Greta Garbo.
Quand une rencontre va bouleverser sa vie, celle avec Joseph von Steinberg, avec qui elle va tourner L'Ange Bleu.
Ça, c'est ce dont nous parlerons demain, Florian.
Rendez-vous demain.
Give me a rose to show how much you care. Tie to the stem a lock of golden hair. Surely tomorrow you'll feel blue, but then will come a love that's new for you, Lily Marlene, for you.